Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. Le dernier de ces bons pour la santé, la dernière, devrais-je dire, de ces bons pour la santé 2014. On sera de retour en 2015, pas d'inquiétude, bien sûr, sur Canal M. L'équipe du microbiologiste Charles Gerba, Charles, j'imagine, parce qu'il est de l'Université de l'Arizona, a récemment voulu mesurer à quelle vitesse un virus contagieux pouvait se propager dans un bâtiment public, dans une unité de soins de santé ou dans un hôtel. Ce que cette équipe-là a pu percevoir, c'est qu'un virus pouvait se propager en l'espace de 2 à 4 heures. Et ça pouvait contaminer un bureau entier. Donc, assez rapide. Comment ça se propage, un virus, et comment on peut s'en protéger? C'est ce qu'on va aborder en deuxième partie d'émission avec Jocelyne Gadebois, elle qui est infirmière. D'abord, Moisson Montréal a redistribué l'an dernier des denrées pour une valeur de 74 millions de dollars, a desservi plus de 230 organismes ici sur l'île de Montréal, des organismes communautaires, et a aidé, attention, 140 000 personnes par mois. Que des personnes ne mangent pas à leur faim ou pas du tout à Montréal en 2014, c'est extrêmement préoccupant et ça l'est tous les jours de l'année. Mais bien sûr, en cette période des fêtes, évidemment, on y pense davantage parce que l'on sait que nous, privilégiés, on sera attablés pendant cette période-là, en période de réjouissance avec notre famille et qu'il y aura une panoplie de plats, beaucoup de nourriture sur la table, parfois également la nourriture qui sera gaspillée. Comment on peut favoriser une meilleure solidarité alimentaire? J'en parle avec Danny Michaud, directeur général de Moisson Montréal. Bonjour, Danny Michaud.
Bonjour.
Merci d'être là en cette période qui, je le sais, est extrêmement occupée pour vous. 140 000 personnes par mois. Je ne savais pas ça, moi, avant de préparer cette émission. Évidemment, ça m'a déstabilisé énormément comme chiffre. C'est énorme. Est-ce qu'en cette période des fêtes, le chiffre gonfle?
Est-ce que le chiffre gonfle? Je vous dirais que ces 140 000 personnes par mois-là sont aidées à tous les mois. Par contre, durant la période des fêtes, il faut ajouter à ça un 15 000 paniers Noël et un 35 000 repas de Noël. Alors oui, il y a un surcroît de travail durant cette période-là. Mais effectivement, c'est des chiffres qu'on ne pense pas. Et là, on parle seulement sur l'île de Montréal. On ne le fait pas sur l'ensemble du Québec au complet. On s'approche plutôt des 325 000 personnes par mois lorsqu'on parle du Québec en entier. Alors oui, c'est des chiffres qu'on ne croit pas ou qu'on côtoie pas la pauvreté ou qu'on pense pas côtoyer cette pauvreté-là aussi près de nous.
On explique comment, Danny Michaud, qu'en 2014, au Québec, en Amérique du Nord, des gens ne mangent pas?
Je vous dirais que les explications sont nombreuses. La plus probable pour l'instant, du moins de cette augmentation-là de pauvreté, vient de la crise économique de 2008, d'où on ne s'est pas vraiment rétabli depuis quelques années. On perçoit quand même une certaine stagnation, je dirais, depuis les trois dernières années sur le nombre de personnes, malgré qu'on est à 140 000 personnes par mois. Mais si on compare avec 2008, il y avait quand même eu un bon 36 % d'augmentation. Alors, je vous dirais que la préoccupation des organismes attachés à Moisson-Montréal pour l'instant, ce n'est pas sur la quantité, mais plutôt sur le visage qui se déplace tranquillement. Alors, même si le nombre demeure le même, on voit de plus en plus de travailleurs à faible revenu, de plus en plus de personnes âgées qui sont affectées. Alors ça devient inquiétant parce que année après année, le pourcentage de ce segment-là augmente.
Donc, les travailleurs s'appauvrissent.
Effectivement. Et souvent, on se fait dire, comment vous pouvez constater ça? Vous savez, si vous prenez le salaire minimum, je ne veux pas faire des grosses mathématiques, mais faisons des mathématiques très simples. Vous prenez le salaire minimum puis vous mettez ça à 35 heures semaine, il reste environ 300 $ par semaine à ces gens-là. La moyenne du logement à Montréal est de 900. Ça prend trois payes. Et vous allez voir automatiquement que ça ne peut pas fonctionner si vous ajoutez les factures d'électricité à tout ça, si vous ajoutez un peu de nourriture à tout ça, c'est impossible que ça fonctionne. Alors oui, le défi des organisations de Montréal aujourd'hui, c'est plus de dire à ces gens-là, on doit travailler ensemble pour vous trouver un emploi. Si on doit travailler ensemble pour trouver un emploi suffisant pour couvrir les besoins de base. Alors, ça devient un double défi. Alors oui, il y a une inquiétude quand même qui est perçue de par nos organisations.
230 organismes communautaires sur l'île de Montréal, mais partout en région, ça bouillonne pour desservir ces gens-là. Moisson Montréal fonctionne de quelle façon ailleurs que sur l'île?
Bien, je vous dirais que la principale mission de Moisson Montréal se situe sur l'île. Par contre, on est aussi le distributeur alimentaire pour l'ensemble des autres moissons à travers le Québec. Alors, on a 17 petites frères et sœurs qui sont alentour du Québec, attachés par une association qui s'appelle les Banques alimentaires du Québec. Et le rôle de Moisson Montréal à l'intérieur de ça, c'est lorsqu'on reçoit un grand don national, c'est de l'envoyer chez nous et nous, on refait cette distribution-là à travers le Québec. Alors, c'est comme ça qu'on a un rôle qui touche l'ensemble du Québec.
Dany Michaud, je le disais tout à l'heure, en cette période de l'année, on pense bien sûr à ces gens qui ne mangent pas à leur faim parce qu'on sait que nous, on le fera pendant ces repas de festivités familiaux. Et que probablement, il y aura du gaspillage. Est-ce qu'il n'y a pas là une clé ou un début de réponse au fait que les gens ici, au Québec, encore ne mangent pas à leur faim?
Bien, c'est certain qu'on vit dans une ère de surabondance sans se préoccuper de ceux qui ne mangent pas à leur faim. Ça, c'est certain. Et à un point tel, j'ai une anecdote là-dessus. Vous savez, on a commencé depuis un an à récupérer la viande à l'intérieur des épiceries. Oui. Et je me souviens que les premières fois, lorsqu'on a rencontré les gens de l'épicerie en question, quand on a commencé le premier projet pilote, on leur disait « Est-ce que vous avez de la viande qui se jette ici, qui se perd? » Ils me disaient « Non. » Puis je leur disais « Bien, comment ça fait que vous avez des installations pour en disposer dans ce cas-là? » Ils disaient « Oh oui, mais cette viande-là n'est pas bonne. » Bien, j'ai dit « Elle n'est pas bonne pour le consommateur moyen, mais est-ce qu'elle est consommable? » Peut-être pas non-vendable, mais est-ce qu'elle est consommable? Et finalement, de fil en aiguille, on a réussi à prouver qu'elle l'était. Puis un an plus tard, on a plus de 60 tonnes de viande de récupérer.
Oui.
Les gens font face aujourd'hui à une panoplie d'options qui sont devant eux. Et souvent, je fais l'analogie avec la région. Moi, je viens de la région de Gaspésie. Puis quand je vais à mon épicerie de quartier en Gaspésie, bien, tu n'as pas 32 choix de pommes, tu as 4 choix de pommes. Alors, tu prends les pommes qui sont disponibles à cette journée-là. Mais si on va dans une épicerie ici à Montréal de ce temps-ci, il y a probablement 40 choix de pommes. Alors, on tarde beaucoup la pomme sans la prendre. Oui. Et finalement, il y a une durée de vie. Et cette pauvre nourriture-là se retrouve soit en compostage ou à la poubelle.
Personne n'en veut après ça. Oui, oui.
Bien, c'est parce que nos standards sont rendus tellement élevés. Mm-hmm. Vous savez, 74 millions de distributions de valeur de denrées l'an passé, on a acheté moins de 1 %. Alors, on a acheté seulement pour 75 000. Tout le reste vient de la chaîne alimentaire où on perd 40 %. Alors, nous, on s'immisce à l'intérieur de cette chaîne alimentaire-là pour réussir à trouver où sont les pertes alimentaires, où sont le gaspillage alimentaire, et on redonne une deuxième vie à cette nourriture-là, tout en donnant un deuxième espoir à ces gens.
Parlant d'espoir, il y a eu distribution de paniers de Noël, c'est la période.
Oui.
C'est quoi le trajet? Et on en avait un, j'aurais aimé ça, qu'il demeure jusqu'à votre venue ici, Dany Michaud, mais il est parti hier, notre panier Noël chez Vuzévoix. Il était bien plein, je vous le promets. Quel est le chemin d'un panier de Noël?
Bien, je vous dirais que les paniers de Noël, c'est un contexte à part. Nous, la distribution est presque faite de tous nos paniers de Noël parce qu'il faut être prêt pour le temps des fêtes. C'est quand même 15 000 paniers de Noël qu'on doit préparer. Alors, habituellement, c'est gens et ou entreprises et ou achats. Quand je parlais de 75 000, il y a beaucoup d'achats durant les paniers de Noël pour qu'on soit capable d'offrir un repas, parce que ça part de cette session-là, d'offrir un repas de Noël adéquat pour ces gens-là. Alors, on va essayer d'avoir une panoplie de produits qui sont nourrissants pour une famille et de les rassembler. Et on essaie, dans cette période-là, de trouver de la nourriture de qualité A1. Alors, non pas de la récupération, mais plutôt de la qualité A1 pour offrir quelque chose d'un peu plus prestigieux, si je peux dire ça, durant cette période-là. Alors, par la suite, ces paniers-là sont envoyés dans chacun de nos organismes qui dessert des paniers de Noël et par la suite, de ces organismes-là, sera desservi des gens. Et c'est comme ça qu'on réussit à contrôler aussi, savoir la quantité de paniers de Noël qui sera fait durant cette période.
Qu'est-ce que l'on devrait mettre dans un panier de Noël?
Bien, je vous dirais que c'est tout ce qui est nourrissant. Hein, souvent, on oublie les pâtes alimentaires, le riz, les protéines en canne, tout ce qui peut permettre de nourrir une famille adéquatement. J'insiste beaucoup sur les pâtes alimentaires, puis j'insiste beaucoup sur le riz, puis beaucoup sur les protéines, parce que je pense que c'est des besoins qu'on a absolument dans nos banques alimentaires. Mais il y a un point aussi qu'on oublie trop souvent, c'est les produits pour bébés. Il y a certains produits pour bébés qui ne sont pas nécessairement accessibles, et ces paniers-là, quand on a des produits pour bébés, vont être ciblés directement à des organisations qui desservent des familles qui vont avoir ces besoins-là. Mm-hmm. Et vous savez à quel point ça peut être hyper dispendieux. Il y a plusieurs débats là-dessus. Vous allez me dire, il y a l'allaitement, il y a plein de choses, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Oui. Alors, si on ne peut pas le faire, ben la canne de lait coûte une fortune. Alors, on essaie aussi de demander aux gens, durant cette période-là, de penser aux tout-petits, oui, de nous aider durant cette période-là.
Parce que, bon, dans ces gens-là qui ne mangent pas à leur faim, il y a des familles, donc il y a des enfants. Mm-hmm. C'est quoi l'impact? Et bien sûr, j'anime une émission sur la santé, donc j'ai envie de vous demander, Dany Michaud, c'est quoi l'impact de ne pas manger à sa faim sur la santé?
Bien, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs gens qui vont vous informer sur différentes affaires, sur le développement, sur la socialisation, sur l'isolement de ces gens-là. Moi, je vous dirais, faites le test.
Ouais.
je dis souvent aux gens, faites le test, mangez pas le matin, mangez pas le midi et essayez de rester concentré l'après-midi au travail. Mm-hmm. Peu importe, ça va jouer sur votre humeur, ça va jouer sur votre apprentissage, ça va jouer sur votre corps en général. Alors, ces enfants-là vivent ça. Ils vivent innocemment parce que, un, ils l'ont pas souhaité. Deux, ils n'ont pas encore le réflexe de dire comment je peux m'en sortir, c'est quoi les points. Alors, ils font juste le subir. Alors moi, durant cette période-là, nous, on fait alimenter le futur durant la période d'été où on essaie d'aider les jeunes dans les camps de jour à avoir des lunchs adéquats durant cette période-là. Mais je vous dirais que le meilleur moyen de savoir comment ils se ressentent, c'est de le vivre une journée de temps.
Mm-hmm.
Et de se rappeler que ces gens-là le vivent, pas seulement une journée, mais souvent le vivent quelques fois durant la semaine.
En tant que citoyen, est-ce qu'on a des responsabilités? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire au quotidien pour aider, pour réfléchir, pour améliorer cette situation-là?
Bien, je pense que oui. Je pense qu'on a une responsabilité. Je me souviens de Coluche qui disait « c'est pas vraiment de ma faute si les gens ont faim, mais ça le deviendrait si j'y changeais rien.
Mm-hmm. »
Et je pense que ça résume bien.
Ouais.
Je pense que c'est dans les petits gestes qu'on peut faire une grande différence. Ça a l'air très cliché, ce que je dis là, mais je le crois sincèrement. Puis les gens, des fois, ils me disent, « Vous savez, M. Michaud, on est sursollicité. Il y a à peu près 2000 organisations. Vous avez tous des besoins. » Je leur dis, « Vous avez raison, mais vous pouvez faire des choses qui peuvent changer la vie de ces gens-là en faisant un peu d'efforts. » Exemple à donner, votre garde-manger a sûrement quelque chose sur la tablette que vous ne vous servez pas depuis, que vous gardez à toutes les fois en espérant que... Puis je veux pas nommer de chaîne, mais vous pouvez aussi aller à l'épicerie souvent, puis avec un montant X, je pense que c'est 70 $, ben ils vous donnent une denrée. Puis souvent, je vois, moi, personnellement, à l'épicerie, des gens qui disent « Ah, j'en ai pas de besoin, j'en ai déjà deux chez nous. » Ben prenez-les, mettez-les de côté. Fait que tous ces exemples-là que je vous donne ne coûtent absolument rien. Ramassez-le, mettez-les de côté, allez sur nos sites Internet, comme moissonmontréal.org, demandez, on va venir même chercher votre bois. Fait que c'est assez facile de le faire. Je pense que dans une société comme la nôtre, où il y a de l'abondance d'un côté...
Il y en a de la nourriture, c'est pas parce qu'il y en manque.
Non, c'est
là.
Ça. Puis je pense que c'est là le défi, c'est de trouver comment on peut justement aider ces gens-là en étant créatif puis imaginatif sans nécessairement prendre l'argent qu'on a difficilement gagné dans nos poches.
Mm-hmm. Vous parliez d'aller livrer vous-même les denrées dans les familles. Ça, c'est parce qu'il y a une équipe de bénévoles quand même assez importante du côté de Moisson Montréal.
Moisson Montréal ne peut pas exister sans ses bénévoles. On a plus de 8000 bénévoles à chaque année qui travaillent chez nous. Vous savez, je me plais à dire parce que c'est important, on se fait poser souvent ces questions-là. Mm-hmm. 74 millions de valeurs de denrées redistribuées pour un coût d'opération de 4,2 millions. Ça veut dire que le coût d'opération est à peu près 6 % chez Moisson Montréal. Fait qu'on investit beaucoup, beaucoup de notre énergie à trouver comment on peut redonner le maximum à ces gens-là dans le besoin. Et c'est un peu notre fierté de le faire de cette façon-là.
Dany Michaud, ce qu'il y a d'assez particulier avec vous, et je le dis parce que vous vous définissez de cette façon-là, vous êtes un homme d'affaires avec une mission philanthropique. Homme d'affaires, pour moi, c'est aussi, ça fait référence aussi à peut-être avoir plus envie d'aller toucher les institutions gouvernementales, d'aller peut-être plus leur parler. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose?
C'est certain. Je dis que je suis un homme d'affaires parce que pour moi, je pense qu'on se doit d'être, pas parce qu'on est un organisme communautaire, qu'on ne doit pas être efficace et qu'on ne doit pas être efficient. Dans ma tête, il faut l'être efficace, il faut être efficient, et c'est dans cette optique-là. Est-ce que le gouvernement peut changer quelque chose? Je vous dirais que c'est certain que dans la période qu'on vit présentement, oui, c'est inquiétant de savoir qu'est-ce qui va se passer. J'entendais les augmentations du côté... des systèmes de garderie qui devraient voir le jour. J'ose pas trop me prononcer parce que je ne sais pas exactement quel va être l'impact, mais ce que je sais, c'est que si on demande à ces gens-là de se trouver un emploi suffisant, souvent les deux ont besoin de travailler. Si en plus Là, on va se retrouver avec une augmentation du côté des garderies. Ce ne sera pas facile.
Ou si maman ou papa doit rester à la maison pour s'occuper des enfants.
Ça va être de plus en plus difficile. Les logements sociaux, je disais tantôt, souvent le logement prend 2 à 3 payes pour les gens. Est-ce qu'on peut trouver, pendant une période de temps, à aider ces gens-là à trouver des logements sociaux adéquats? Prôner l'éducation. Comme ça prend de plus en plus de travail bien rémunéré pour être capable d'arriver, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation très jeune pour que, justement, ces personnes-là puissent casser ce cycle de pauvreté-là.
Oui.
C'est vraiment ça, c'est casser le cycle de pauvreté, ce qui est difficile de s'en sortir. Pour monsieur, madame, tout le monde qui ne l'a pas vécu, c'est certain que ça paraît un peu facile de le faire, mais pour quelqu'un qui a le pied dedans, c'est pas facile de s'en sortir.
Et de continuer justement à favoriser l'accès aux études. Ça, c'est un autre débat, bien sûr. Pendant la période des fêtes, comment les familles, que ce soit sur l'île de Montréal ou ailleurs au Québec, peuvent se renseigner sur les initiatives ou sur les repas qui seront offerts? Parce que la demande n'est pas seulement avant le 24 décembre. Là. On le sait, c'est à l'année, mais aussi entre Noël et Jour de l'An.
Effectivement. À partir de samedi, on va faire le grand tri chez nous. Là, le nombre de bénévoles est complet. On va être plus de 300 à faire des sacs d'urgence entre Noël et Jour de l'An, mais je vous dirais qu'à n'importe quel moment, le meilleur moyen d'avoir accès à nous et à toute information confondue, c'est d'aller sur le site Internet de Boisson-Montréal.
Mm-hmm. On parle d'à peu près 10 000 sacs d'urgence. Hein?
On va essayer de faire entre 5 et 10 000 sacs d'urgence. Je vous dirais, ça va même encore cet après-midi, je n'avais pas encore le montant total parce que ça dépend de la générosité des dons qu'on va avoir reçus.
Et ça, on c'est espère. À part des paniers de Noël.
Oh oui, c'est à part des paniers de Noël, à part de la réponse d'urgence des 140 000 par mois, à part des 35 000 repas.
Voilà.
On sait qu'en Noël, Jour de l'An, on a constaté depuis les 3-4 dernières années qu'il y a toujours 2 000 familles environ qui ont un besoin d'aide concret durant cette période-là. Alors, on veut préparer ça. Alors, c'est des petits sacs qui vont peut-être être offerts en quantité de 2, de 3, dépendant de la famille. Alors, on espère en faire entre 5 et 10 000 et on aura le résultat samedi après-midi.
On comprend davantage le 74 millions quand vous expliquez là, toutes ces démarches-là.
Surprenant, c'est que malgré le 74 millions, là on parle de valeur, mais en kilos, ça veut dire qu'on manipule environ 1 million, 1 200 000 kilos à tous les mois.
Mm-hmm.
Mais malgré tout ça, on répond seulement 70 % de la demande. Il y a quand même un manque à gagner de 30 %.
Il y a des oubliés dans tout ça.
Ben,
ouais.
Où on est obligé de minimiser la quantité apportée à ces gens-là. Le défi là, est complètement différent. Et à l'époque, Moisson-Montréal donnait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, Moisson-Montréal doit développer des projets pour s'assurer qu'on touche les 4 groupes alimentaires sains,
oui.
Parce que ces familles-là n'ont même plus l'argent pour payer les principes de base.
Oui.
Alors, si on n'est pas capable, nous, de les aider, ils n'auront jamais accès. Et malheureusement, dans notre société, malheureusement, puis je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais malheureusement, ce qui est souvent accessible, c'est rarement la nourriture qui a un fort potentiel.
Ben oui.
Alors, c'est à nous de rééquilibrer ça dans nos banques alimentaires. Quand je parle de viande, quand je parle de produits laitiers, quand je parle de fruits et légumes, vous savez, 60 % de notre distribution est en fruits et légumes pour justement aider ces gens-là. Alors, c'est un peu notre rôle aujourd'hui.
Oui. Et à travers tout ça, de transmettre des bonnes habitudes de vie à ces petits-là qui, peut-être, n'ont pas le milieu adéquat pour ça, mais Moisson-Montréal aussi contribue à ça. En terminant, parce que le temps file, le 12 février au Corona, vous célébrez vos 30 ans, Danny Michaud?
Ben oui, 30 ans de Moisson-Montréal, 30 ans d'entraide, 30 ans d'existence avec émotions mixtes, hein, parce qu'on aimerait mieux pas exister, mais que voulez-vous maintenant, ça fait 30 ans, on essaie de faire notre mieux. Alors oui, on invite les gens. On a fait 2 barèmes de prix. Il y a un barème de prix à 200 $ parce que c'est quand même une levée de fonds. Mais on s'est dit, on va rendre disponible seulement 200 billets à 200 $ mais on va en mettre disponible 600 à 31 $ Ben, 29 $ avec la taxation, on tombe à 31 $ Alors, à 31 $ alors, monsieur, madame, tout le monde est invité au Corona. Ça va être avec Karim Ouellette et Anne-Marie Wittenshaw va animer la soirée.
À l'animation.
Alors, c'est un bon moyen de nous aider, de se divertir. C'est le temps, si vous voulez faire des cadeaux de Noël. C'est pas très cher, je pense, pour avoir un spectacle de Karim Ouellette et en même temps faire une bonne action.
Excellente idée. www.moissonmontréal.org pour consulter aussi votre bilan fin.
Oui.
Moi, ça m'a beaucoup outillé, je dirais. Et je veux juste vous citer, là, on n'a plus de temps, mais je veux quand même vous citer. Danny Michaud, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas le choix d'aller travailler parce qu'il y a des gens qui vont manger grâce à toi. Si je ne fais pas ça, il y a des gens qui ne mangeront pas. Merci beaucoup de le faire, Danny Michaud. Joyeux Noël.
C'est gentil, merci beaucoup.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_M.
Bonjour Jocelyne Gadbois.
Bonjour Marianne Paquette.
Avancez-vous un petit peu vers le micro, qu'on vous entende bien.
Est-ce que ça va mieux?
Tout à fait. Rémi, ça va mieux?
Ça va mieux.
Tout à l'heure, on apprenait qu'un virus peut se propager en l'espace de 2 à 4 heures. Donc, on parle ici là, d'une demi-journée pour qu'un virus contagieux contamine un bureau en entier. Et ensemble, on va tenter de voir, Jocelyne Gadbois, comment on peut se protéger d'un virus. Mais c'est quoi un virus d'abord?
OK. Un virus, comme une bactérie, ce sont des micro-organismes qui sécrètent des petites toxines. Dans le groupe des micro-organismes, on peut retrouver aussi les champignons, puis on peut retrouver aussi les parasites. Alors, si on veut s'en tenir aux bactéries et aux virus, la grande différence entre les deux, c'est qu'une bactérie, elle va sécréter une petite toxine, mais elle va réagir aux antibiotiques.
Mm-hmm. OK.
C'est ce qui va la différencier d'un virus qui, lui, ne va pas réagir aux antibiotiques.
Oui, voilà. Donc, c'est important de le savoir pour ne pas prendre des antibiotiques pour rien.
Absolument. Oui. Alors, le virus va, puis comme la bactérie aussi, quand ils vont entrer dans le corps, tout de suite, ils vont faire face à nos défenses naturelles du corps, hein, notre lymphe, nos globules blancs, etc., etc. Tout de suite, ils vont commencer à combattre ces virus et ces bactéries. Mm-hmm. Mais la bactérie va vraiment infecter, inflammer, à avoir du pus à n'importe quelle partie de notre corps.
Est-ce qu'on peut dire dans ce cas, Jocelyne, qu'une bactérie, c'est pire qu'un virus?
Non, c'est pas pire qu'un virus.
OK.
Dans les deux cas, on va avoir des symptômes de toute façon.
OK.
Quand on parle de la grippe, puis du rhume, puis de l'influenza, finalement, ce sont des virus. Mm-hmm. Ici, il s'agit de virus. Alors, ça ne réagit pas aux antibiotiques, un virus. Comme on a parlé déjà des otites, ou qu'on a une congestion nasale ou un petit mal de gorge au début, c'est viral. Ça ne réagira pas. S'il y a une surinfection par-dessus, là, on peut aller voir un médecin et se faire prescrire des antibiotiques.
Mm-hmm. Est-ce qu'une bactérie, c'est contagieux aussi?
Oui.
Ah, OK.
Oui, il y a un processus pour que ce soit en trois étapes. Alors, ça prend la présence de la bactérie ou du virus, la présence. Ça prend la transmission. Alors, les milieux de transmission sont les contacts de peau à peau, les sécrétions du corps à tous les niveaux. Et en ce qui concerne le rhume et la grippe, ben, les sécrétions, la salive, les sécrétions nasales, etc. Et puis, quand on éternue dans nos mains ou qu'on se mouche, ben, les sécrétions vont aussi dans nos mains. Mm-hmm. L'importance de se laver les mains, c'est la première mesure de protection.
De prévention.
Ah, absolument. Le lavage des mains.
Jocelyne Gadbois, vous êtes un petit peu enrhumée, là.
Présentement, oui.
Est-ce que vous êtes contagieuse? Comment on sait si on est contagieux ou pas?
Bien, présentement, je suis contagieuse.
OK.
Alors, je vais vous expliquer dans mon cas comment ça s'est passé. Cette semaine, j'étais en stage avec des étudiantes et puis j'en avais une lundi qui m'est arrivée avec contaminée. Alors, elle a mis un masque et elle s'est mis des gants pour travailler. Mm-hmm. Malgré cela, moi, j'ai été en contact avec elle toute la journée, alors à proximité. Alors, je l'ai attrapée d'elle. Mm-hmm. Et moins de 24 heures plus tard, des symptômes
se déclaraient. Oui.
Alors, pour que la maladie, une fois que la transmission est faite, donc on a parlé de la présence d'un virus ou d'une bactérie, on a parlé d'un milieu de contact, et puis ça prend l'autre, le réservoir.
Oui, oui, oui.
Ah, ça prend les trois étapes.
Pour recevoir.
C'est ça. Et quand on l'attrape, le virus ou la bactérie, il y a toujours un petit moment d'incubation.
24, 48 heures?
Ça dépend des virus.
OK,
ça,
OK.
Mais dans celui qui nous concerne, là, la grippe, le rhume puis tout ça, les délais de l'incubation se raccourcissent. Oui.
Ça dépend peut-être du virus et des personnes. Quelqu'un qui aurait un système immunitaire plus faible, ça irait plus vite.
Absolument. C'est tout à fait le bon raisonnement à avoir. Alors, donc, les enfants sont plus à risque, les personnes âgées sont plus à risque, et toutes les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus à risque mm-hmm. parce qu'ils ont moins de défense.
Oui.
Alors, l'incubation dans le temps de la, dans le cas de la grippe et du rhume, c'est à peu près... Le chiffre que j'ai vu, c'est 12 heures avant l'apparition des symptômes.
Mm-hmm.
À 48 heures.
Oui. Ça peut aller vite et on peut comprendre qu'un virus se propage en l'espace de 2 à 4 heures.
Oui, là. Alors si j'éternue dans une pièce où il y a 3 personnes, ben c'est clair que si je mets pas mon bras, si j'éternue pas dans mon bras, si je me lave pas les mains après, puis que je touche à quelqu'un, mm-hmm. ben je peux facilement contaminer juste en éternuant dans l'air.
Est-ce que vous auriez dû dire à votre étudiante ou je pense à tous les parties de famille qu'on aura, reste à la maison?
Ben l'isolation, c'est une mesure, la dernière des mesures. Si les symptômes sont trop évidents, trop nombreux, comme moi aujourd'hui, là, je resterai chez nous, mm-hmm. je n'irai pas en stage.
Mm-hmm.
Puis en fait, j'ai annulé des quarts de travail en fin de semaine parce que je ne me vois pas comme infirmière m'en aller dans une résidence de personnes âgées puis travailler avec les sécrétions nasales qui, que j'expulse.
Et des personnes plus à risque.
Absolument.
Oui.
Alors, j'ai annulé mon quart de travail, puis on m'a déjà remplacé, heureusement.
Oui.
Je suis peut-être très contente parce que c'est ça.
Donc, se laver les mains en cas de dernier recours, s'isoler. Autre mesure de prévention?
Se laver les mains souvent.
Mm-hmm.
Si on n'a pas l'accès à un lavabo, on prend la petite
oui.
bouteille d'alcool gel, là.
Oui.
Puis ça, on frotte nos mains 20 secondes avec ça, mm-hmm. au moins 20 secondes. On a les mouchoirs, on détruit nos mouchoirs au fur et à mesure.
Ben oui, on n'y pense pas à ça.
Absolument, absolument. Mm-hmm. Et si on fait de la cuisine, par exemple, ben on se met un masque.
Ouais.
Puis on lave nos mains avant de préparer un plat, puis après, comme tel.
Comment expliquer qu'une personne va tomber malade et l'autre pas? Ça arrive, ça?
Oui, ça dépend de la résistance. Au niveau du corps, mais ça dépend de la réponse du système immunitaire également. Alors ça, c'est chaque cas est individuel là-dedans.
Oui.
Et ça dépend du nombre d'anticorps qu'elle a déjà bâti pour faire face aux problèmes viraux.
Je vous souhaite pour 2015 plein d'anticorps.
Merci!
Justine Gadebois, merci beaucoup. Vous êtes infirmière et c'était très, très éclairant parce qu'on le sait, pendant les prochains jours, on sera en contact avec beaucoup de monde, des gens qu'on aime, mais on n'a pas envie d'attraper...
2 mètres.
Deux mètres de distance.
Oui.
Justine Gadebois, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Émir Mozou, merci beaucoup à la mise en onde. Marianne Paquette au micro, qui vous souhaite un très, très, très joyeux temps des fêtes. Prenez soin de vous. Prenez du temps en famille pour apprécier ce que vous aimez. Et puis, surtout, on se retrouve en pleine forme en 2015. On sera là dès le 5 janvier, encore avec une panoplie de sujets sur la santé qui, j'espère, seront vous intéresser et qui pourront vous aider autant si vous avez une famille à vous occuper ou en fait, j'espère toujours plaire à tout le monde. Vous pouvez toujours nous suivre canalm.org pendant la période des fêtes. On sera là. Je vous embrasse. Portez-vous bien. On se voit le 5 janvier 2015. Bye bye tout le monde.